Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Te Baba Kama, page 114, DAF Kufiut Dalet.
Bonjour à tous, c'est DAF est clair, Baba Kama, Kufiut Dalet. La Gemara se demande Adam Rechouv, sur lequel peut s'appuyer un tribunal non-juif, comme si c'était deux personnes. Donc, ils vont faire sortir de l'argent de cette personne. D'un côté, il n'a pas le choix d'y aller parce que c'est Adam Rechouv. D'un autre côté, eh bien, on va faire sortir de l'argent à cause d'un seul témoignage. Est-ce qu'il a le droit d'y aller ou pas, Teiko? Nous dit la Gemara que si jamais un juif a vendu un goy, un terrain proche d'un autre juif, ce juif qui a vendu doit être mis en idouille. Demande la Gemara pour quelle raison? Si c'est à cause de Bar Matra, la halakha qui nous dit que quand on vend quelque chose, on doit le vendre d'abord à ses voisins. Pourtant, nous dit la Gemara, quand tu as acheté d'un goy ou quand tu as vendu un goy, il n'y a pas de Bar Matra. Quand tu as acheté d'un goy, ben, tu peux faire profiter le voisin, il n'y a plus de goy à côté. Quand tu as vendu un goy, la halakha de Bar Matra ne s'applique qu'à l'acheteur et pas au vendeur, donc j'ai rien fait. Pourquoi est-ce qu'ici il serait pénalisé? Je dis la Gemara, justement, ici il est pénalisé pour une autre chose, c'est parce que le juif a lui dire à cause de toi j'ai un voisin non juif, et donc tu me causes des dégâts, il sera en idouille jusqu'à qu'il s'engage à régler tous les problèmes que ce voisin non juif pourrait causer. La Mishnah nous dit que si jamais des moursines ont pris son animal et qu'on lui a donné un autre, ou des brigands ont pris son habit et qu'on lui a donné un autre, il peut les garder puisque on peut affirmer que les béalim ont été mitièches. Celui qui va récupérer quelque chose qui a été perdu dans un fleuve, ou alors par des brigands, si les balims ont été mitièges, il peut les garder. Pareil pour un essaim d'abeilles qui s'est sauvé de chez lui, s'il a été mitièges, on peut les prendre. Le Baroka nous dit qu'une femme ou un enfant peut témoigner au sujet de cet essaim, nous dire d'où est-ce qu'il vient. Celui qui est à la recherche de son essaim, il pourrait rentrer dans le champ d'un autre pour les récupérer. S'il a causé un dégât de manière volontaire, il devra le rembourser, mais il n'a pas le droit de couper, par exemple, les branches de l'arbre sur lequel se seraient installées ces abeilles pour les récupérer. Le Baroka nous dit que même ça, il a le droit de le faire, de payer dans l'intention de le rembourser. Dans la Mishnah, on a vu que si jamais ils les ont pris, les brigands par exemple, eh bien, il peut les garder. Dans la vérité, c'est marqué que non, qu'il doit les rendre à son premier propriétaire parce qu'il pense que le Yehush n'est pas suffisant, puisque quand il y a eu Yehush et le voleur, il n'y a pas encore chez nous Yehushut, et donc lui les a récupérés et c'était encore à son. Autre version de cette vérité, s'il veut les garder, il peut les garder, mais s'il veut les rendre, il doit les rendre à son propriétaire. Dans la Mishnah, c'est marqué que Harelou Shalom, je n'ai pas Balim. Jérabashi, ça dépend de quelle sorte de brigand. Si c'est des brigands non juifs, alors dans ce cas-là seulement, on peut dire qu'il va les garder, mais si c'est des brigands juifs, il ne fait pas Yehush parce qu'il pense qu'il peut aller au Bedjin. Dans la Gemara, au contraire, arrêt des tribunaux non juifs, et ils forcent le remboursement. Par contre, les tribunaux juifs ne forcent pas le remboursement, ils obligent, ils disent simplement, tu es obligé de rembourser. Et donc, il y a plus de chances d'être mitièche face à un juif que face à un non-juif. Et là, on dit, la Gemara, tu as raison. Non, là, c'est face, c'est marqué que quand il a récupéré quelque chose d'un brigand, eh bien, ça dépend si je sais qu'ils ont été mitièche ou pas. Mais si je ne sais pas, je ne peux pas. La Gemara, c'est seulement quand c'était d'un non-juif. Et c'est pour cela que quand je ne sais pas, je peux supposer qu'il n'y a pas eu Yehush. Mais quand c'est un juif qui a volé, je peux supposer qu'il y a eu Yehush. Mais là, c'est marqué que si on a une peau qui appartenait à un privé, son intention de l'utiliser en tant que telle la rend perméable à la Touma. Si c'est celui qui les vend en général, son intention ne la rend pas perméable à la Touma. Si c'est un voleur, sa marche va le rentamer. Pourquoi? Puisque le voleur, le propriétaire était mitièche parce qu'il ne sait pas à qui ça appartient, donc le voleur est propriétaire, donc sa marche va être effective. Par contre, si c'est un gazlan, c'est-à-dire celui qui est venu voler de front, de face, il a peur de personne, eh bien, le propriétaire, sachant de qui il s'agit, ne fait pas yéhouch, donc ça n'appartient pas au gazlan. Bichman dit juste le contraire. Quand c'est un gazlan, la marche va m'étamer. Pourquoi? La marche va du gazlan m'étamer. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il est propriétaire. Parce que le volet, il fait yéhouch. Parce qu'il dit, celui-là, il est culotté. Donc le volet fait yéhouch. Mais si c'est ganav, eh bien, il vole en cachette. Donc je ne fais pas yéhouch parce qu'il est un peureux. Je vais l'attraper et je vais récupérer. Nous dit la Gemara, cette marloquette Tanaïm, elle est seulement quand je ne sais pas s'il a fait yéhouch ou pas. Dans ce cas-là, il y a marloquette. Est-ce que je peux supposer qu'il y a eu yéhouch? Mais si je sais qu'il a fait yéhouch, ce yéhouch est effectif. Ah ben, nous dit non. Même si tu sais qu'il a fait yéhouch, la marloquette, est-ce que c'est un vrai yéhouch ou pas? J'ai abayé, ne dis pas le contraire de Oula, puisque dans cette Mishnah, qu'est-ce qui est marqué? C'est parce que je sais que l'on était à chou, mais s'il était à chou, je devrais considérer que c'est à lui. Jagma, non, Rabba lui dit non, moi je lis pas comme toi, il est marqué les fichiers enan yéhouch, les fichiers en yéhouch, les baalim, c'est-à-dire ce yéhouch n'est pas effectif, c'est pas un vrai yéhouch. On ramène des preuves contre Rabba de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, c'est marqué que si jamais le percepteur d'impôt les a pris, etc. Dans la Gemara, de quoi on parle? Dans la Gemara de la Mishnah, on parle de deux cas, percepteur, donc c'est en face à face, donc c'est comme un gazlan, et l'estime la Gemara qu'on parle de ganav. Donc on dit qu'il y a yéhouch. Dans la Gemara, de quoi on parle? Si c'est d'après Rabbanan, pourquoi est-ce que dans gazlan, tu dis qu'il y a yéhouch? Si c'est d'après Abishimon, pourquoi est-ce que tu dis que dans ganav, il y a yéhouch? D'après où là, je peux expliquer notre Mishnah en parlant d'un cas hein, où on est au courant, c'est pour ça qu'il y a Yehush. Mais d'après Rabba qui dit que même si on sait qu'ils ont fait Yehush et Marloket, cette Mishnah va de ni d'après l'un ni d'après l'autre. Maintenant, on peut dire qu'ici on parle d'un cas où c'était Listi Mezoyan, il était armé, et c'est pour ça qu'il y a Yehush, puisque le propriétaire se dit, celui qui est culotté, il n'y a rien à faire. Ça va d'après Rabbi Shimon. Ainsi, c'est ainsi, on a donc deux sortes de voleurs, c'est-à-dire le percepteur en face à face et le brigand à main armée en face à face. C'est deux sortes de gazlanim. La Mishnah, la Gemara amène notre Mishnah. Il est marqué que le voleur en cachette, le voleur en face à face, le anas, celui qui a pris quelque chose et qui le paye au final, si un de ces trois a été magdish, ou alors il a donné en tant que truma ou maaser, c'est défini comme maaser. Ça veut dire que le yehush est effectif. Jagma, de quoi on parle? Si on va d'après Rabbanan, pourquoi est-ce que dans Gazlan, on dit qu'il y a yehush? Si on va d'après Rabbi Shimon, pourquoi est-ce que dans Ganav, on dit qu'il y a yehush? D'après Oula, je peux dire qu'on sait qu'ils ont fait yehush. Mais d'après Rabba, de quoi on va parler? Agmar nous dit, on va parler d'après Rabbi Shimon et l'estime Zuyan. Ah, si c'est ainsi, ça se répète deux fois. Agmar nous dit, Nachiname, ça se répète deux fois. Ou alors, nous dit Agmar, on pourrait dire que cette Mishnah va d'après Rabbi, qui lui ne fait pas de différence entre Ganav et Gazlan, il pense que de toutes les façons, eh bien, il y a Yehush, comme on va tout de suite expliquer. Agmar ramène les paroles de Rabbi, il lui dit que le Ganav, il est comme le Gazlan. Agmar nous dit, mais est-ce que c'est Ganav comme Gazlan et il n'y a pas de Kinyan, c'est-à-dire que le Yehush n'est pas effectif, puisque Rabbanan pense que dans Gazlan, c'est pas effectif. Alors, c'est comme Gazlan de Rabbi Shimon, qui pense qu'il y a oui et ouche, parce qu'il est sûr qu'il ne pourra jamais le récupérer. L'Agma nous dit, on remet la Mishnah. Dans la Mishnah est marqué les Moursin et le Listin. De quoi on parle? Si on parle si on va d'après Rabbanan, on ne comprend pas Gazlan. Si on va d'après Rabbi Shimon, on ne comprend pas Ganav. Si on va d'après Rabbi, on peut comprendre pourquoi est-ce que dans les deux, il y a ouche. Nous dit l'Agma, pas forcément. On pourrait très bien te dire que on va d'après Rabbi Shimon, ici on parle d'un brigand armé, et c'est pour ça qu'il y a Yehush. Ah, si c'est ainsi, ça se répète, il n'a rien à mettre de façon de parler de Gazlan. On ramène la deuxième Mishnah qu'on a vue, Ganav, Gazlan et Anas, au sujet de Hegdesh, Tourmah et Maaser. Encore une fois, on pose la même question, Ganav et Gazlan, de quoi on parle? Si on parle d'après Rabbanan, on ne comprend pas pourquoi est-ce que dans Gazlan, il y a Yehush, si parce qu'il sait de qui on parle. Si c'est Rabbi Shimon, on ne comprend pas pourquoi dans Ganav, il y a Yehush, puisque lui pense que quand il se cache, justement, il n'y aurait pas d'Yehush. Et donc, si on te dit que Ganav est comme Gazlan d'après Rabbi, donc on comprend qu'on pourrait aller d'après Rabbi. Mais si tu me dis que Ganav comme Gazlan d'après Rabbanan, eh bien, on ne peut pas comprendre. Jagma, bien sûr qu'on peut comprendre. L'estime est Zoyan et Rabbi Shimon. Ah, si c'est ainsi, ça se répète. Jagma, il n'a rien à dire. Donc, on n'a toujours pas de preuve. Qu'est-ce que Rabbi pense? Jagma, même une dernière preuve. Rabbi avait dit à son fils, sache que quand le père avait volé quelque chose, les enfants ont l'obligation de le rendre, parce que c'est un manque de respect par rapport au père, c'est seulement par rapport à ça. Mais sinon, ils auraient pu le garder. Ça veut dire que le Yehush est effectif, et c'est pour ça qu'ils peuvent le garder. Comme un chemin que d'après Rabbi, Ganav est égal Gazlan est égal Yehush. Nechil Shelvorim, un dessin de l'abeille, on a dit, ça veut dire quoi c'est quoi le Chidush? On dit Agma, bien que le Kinyan de cette personne n'est que Midera Banan, on aurait pu croire que il y a Yehush plus facilement qu'un chemin que c'est seulement si on sait qu'il y a Yehush, sinon non. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'un enfant et une femme peuvent témoigner. Dans la Gemara, ils ne peuvent pas témoigner. Rien, un enfant et une femme ne peuvent pas témoigner. La Gemara nous dit, on parle d'un cas où il y avait le propriétaire qui courait derrière eux, et eux étaient Messer les Fitoumo. Donc on a deux preuves qui sont des preuves qui sont extérieures, qui sont simplement contextuelles, et ces deux preuves ensemble, c'est suffisant. Alors Vachil nous dit que Messer les Fitoumo, ça marche en général que pour Edut Isha, pour dire à une femme que son mari est mort. Dans la Gemara, bon, dans notre histoire de Nachil Shelvorim, ça marche. Jagma, oui, mais ça marche parce que c'est Kinyan Derabanan. Ah, dans De Horita, tu dis que ça marche pas. Pourtant, il y avait un enfant qui avait dit que il se rappelle qu'on l'avait mis au Mikvé, qu'il avait, il avait consommé de la Trouma, et ses amis s'éloignaient de lui, il appelait celui qui mangeait des Chalotes. Donc, et Rebi, il l'a défini comme Kohen. On voit donc que Messer Fitoumo, ça marche. Jagma, là-bas aussi, c'est pour Thomas Derabanan. Ah, non, Jagma, pourtant, il y avait un autre cas. Oui, un enfant qui a dit que j'étais avec ma mère en captivité, je faisais toujours attention à la surveiller pour qu'elle n'ait pas eu de rapport avec qui que ce soit. Et on a été marcher à sa mère, tu vois, comme Messer Lefitoma, ça marche. Là-bas aussi, c'est que Midera Banane, c'est Chouya. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de couper l'arbre pour récupérer les abeilles. Mais Shmuel Meshamel Banka nous dit que c'est un Tanaï Bedin qu'il a le droit de le faire. C'est ce que Yehoshua avait instauré. De la même manière, Tanaï Bedin versait du vin ou alors jeter du bois pour récupérer du miel ou du lin. Et après, il allait récupérer donc la valeur de ce qui avait été jeté. Tout ça, c'est ce que Yehoshua avait instauré quand il était arrivé en Eretz Israël. La Mishnah nous dit que celui qui se rend compte que ses affaires se trouvent chez un autre, et on sait qu'il a subi un cambriolage, il pourra prêter serment que l'acheteur, celui qui a les choses, pourra prêter serment combien ça lui a coûté, et l'autre devra le voler, devra le payer. Et sinon, c'est-à-dire si jamais il n'y a pas eu de bruit qu'il a subi un cambriolage, il ne pourrait pas venir récupérer quoi que ce soit d'un autre. Jagmaï alors s'il y a eu un bruit. Peut-être que c'est lui qui l'avait vendu à X, et après il a fait courir un bruit pour récupérer. On parle d'un cas où on sait qu'il y avait des gens chez lui à la maison, et lui-même, quand ils sont partis, ils ont dit « j'ai suivi un cambriolage ». Bah justement, il a profité de l'occasion. Maintenant, on voit que ils ont creusé un endroit pour sortir, etc. Et donc, on sait très bien qu'ils ont volé quelque chose. Oui, mais peut-être qu'ils ont volé des kelim, pas des sfarim. On sait qu'il y avait aussi des sfarim. Peut-être qu'ils ont volé des petits, et lui demande des grands. Oui, mais lui, il dit clairement lequel c'est fait, on parle. Ok, mais peut-être c'était des anciens, et lui demande des nouveaux. À mon avis, on parle d'un cas où on peut dire, voilà, ça appartenait à lui, ça appartenait à lui. Donc, d'après toi, ces voleurs qui étaient Baba Martéret, ils sont rêves de rembourser. Pourtant, Rav nous a dit que Baba Martéret, il est pas tour, puisqu'il devient Khayav Mita au moment où il vole. Ça ne le rend pas tour de rembourser, donc il devient propriétaire. Pourquoi est-ce que ici, on peut récupérer la chose? Arrête, ça appartient à ce voleur. Ça, c'est pas dans un cas où la personne a pris un risque en rentrant, peut-être qu'il allait se faire tuer, mais là ils sont venus, ils étaient invités au départ et c'est seulement après qu'ils se sont sauvés. Donc c'est pas Bamarter, donc il n'y a pas de Kinan. On nous dit que toute cette histoire, c'était tout ce qu'on avait besoin de prouver qu'il y avait eu vol. C'était une personne qui avait l'habitude de vol, de vendre ses affaires, mais une personne qui n'a pas l'habitude de vendre ses affaires, on n'a pas besoin de chercher tellement loin. Alors, ok, il n'a pas l'habitude, peut-être qu'il avait besoin d'argent et qu'il était à court, peut-être qu'il a vendu. Ok, lui il n'a pas l'habitude de vendre et il y a un bruit qu'il a été cambriolé. C'est suffisant pour le croire qu'il a été volé. On va résumer un peu dans ce qu'on a vu. Un Adam Khachouv qui vient témoigner dans un tribunal Goy, question sans réponse, Teko. Celui qui vend un terrain, un non-juif, près d'un terrain d'un juif, il est mis en édoute jusqu'à qu'il s'engage à régler tous les dommages que pourrait causer le voisin non-juif. Quand j'ai récupéré quelque chose d'un percepteur d'impôts ou d'un voleur, quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre, ça reste à moi parce que je suppose qu'il y a Yehush, il y a une Marita qui n'est pas d'accord. On a vu que, qu'il y a une différence entre un voleur Goy et un voleur juif. Un voleur Goy, on ne fait pas Yehush. Parce qu'on peut récupérer dans leur tribunal un voleur juif, on fait Yehush parce que dans le Bedin, c'est là qu'on récupère, bonne chance. On a ramené une machloquette. Quand est-ce qu'on pense qu'il y a plus Yehush? Est-ce que c'est quand il y a Gazlan, on se dit c'est culotté, il y a plus Yehush? Ou quand c'est Ganaf, quand on ne sait pas vers qui se retourner, c'est quand dans ce cas qu'il y a plus Yehush? On a ramené que d'après Rebi, et d'après Rebi, Ganav est égal Gazlan, de toutes les façons, il y a Yehush. Machloket et Moraim, est-ce que cette machloket, c'est seulement quand on n'a pas entendu qu'ils ont fait Yehush, mais si ils ont fait Yehush, eh bien, ils ont dit qu'ils ont fait Yehush. Ou même dans le cas où ils disent qu'ils ont fait Yehush, on pense que ce Yehush n'était pas sérieux et effectif. Un essaim d'abeille, c'est un kinyan des Rabanan. Pour pouvoir se l'approprier, il faut savoir qu'il y a eu Yehush. Une femme et un enfant ne peuvent pas témoigner, mais s'ils sont messer, les fitoumo avec une autre preuve contextuelle, ça marche. Mais certes, les fitoumo, ça marche dans le Derabana, de Doraita, ça marche seulement dans l'histoire d'une femme sur laquelle on veut témoigner que son mari est mort. Est-ce qu'on peut couper un arbre quand on veut récupérer les abeilles qui sont dans l'arbre? Machloket, Tanakama et Rabbi Shmuel ben Osh, Rabbi Yochanan ben Broka. Celui qui voit ses affaires voler chez un autre, l'autre pourra prêter serment qu'il a payé X somme et on devra lui redonner cette somme pour récupérer. Seulement dans le cas où on a une preuve que la personne a subi un cambriolage, si on a une personne qui n'a pas l'habitude de vendre ses affaires et il y a un bruit qu'il a été cambriolé, on n'a pas besoin de plus que ça pour lui permettre de racheter ses affaires. Il a fait clair au prochain, mais à demain, Bezrat Hashem.